Aujourd'hui, dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire sur Canal B, on reçoit Georgia Ticini. Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes professeure des universités en psychopathologie clinique à l'Université Rennes 2 et directrice adjointe du laboratoire recherche en psychopathologie et psychanalyse. Psychanalyste et psychologue clinicienne, vous êtes aussi experte psychologue auprès des tribunaux. Avec une longue expérience clinique en milieu carcéral et psychiatrique. Vous avez publié en février 2023 aux presses universitaires de Rennes le mythe de la prison, du lieu au discours. Il va être question de ce livre pendant une heure avec les questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Colette, journaliste à Ouest-France et à la retraite désormais. Juste à côté, on a Christian Lebart pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, également professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour Catherine.
Colette, je vous laisse la parole.
Cet été, la France a battu un record. Dans les prisons françaises, pour la première fois, la barre des 74 000 détenus a été franchie. Au 1er juillet, on comptait 74 513 détenus pour 60 666 places. Et actuellement, 2400 personnes dorment sur un matelas à même le sol. Parmi les incarcérés, à noter, plus de 20 000 personnes attendent d'être jugées. À noter aussi, quand on parle de détenus, on parle presque exclusivement d'hommes. En effet, les femmes ne représentent que environ 3,5% de la population carcérale. Georgia Ticini, les lieux d'enfermement et d'internement ont toujours existé. Mais la prison en tant qu'institution pénale est née de la révolution de 1789. Que s'est-il passé dans ces années décisives? C'est quoi cette grande bascule de la révolution?
Alors d'abord, merci beaucoup pour cette invitation, j'en suis vraiment ravie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la révolution française disons, on peut la considérer comme un temps zéro, un temps de remise en discussion de tout, de construire et bâtir une nouvelle société, une société républicaine et démocratique. Et donc, c'est autour surtout de 1791, lors de l'Assemblée nationale constituante, que le réformateur, tous les membres de la société, ils ont commencé à réfléchir sur comment faire pour sortir d'une société plutôt violente, dans la mesure où il y avait la peine capitale, où il y avait des peines qui c'était des coups, des fouets, des piloris, il y avait des peines, des châtiments corporels, justement on les appelait ainsi, et donc il fallait sortir de cette modalité violente de la société. La nouvelle société devait être une société qui devait punir autrement.
Ne pas se venger, punir.
Absolument, ne pas se venger et punir. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une très grande réflexion sur comment faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment le faire et où est-ce qu'on pouvait prendre un peu les idées. Et à ce moment-là, les réformateurs, plusieurs, il y en avait plein. Moi, je me suis surtout arrêtée sur quatre. Donc Charles Lucas, évidemment, Beaumont et Tocqueville, ensuite. Et puis Moreau Christophe et Julius. Je me suis arrêtée sur eux, mais il y en avait plein d'autres. Qui ont commencé à penser une nouvelle institution pénale. Et donc, cette institution pénale prévoyait et devait prévoir des règles dans la privation des libertés qui était considérée comme la peine la plus humaine. Parce que c'est un châtiment de l'âme et plus du corps. On enfermait les corps, mais on ne le, entre guillemets, violentait plus. Et il y a eu tout un voyage dans le monde entier pour aller chercher comment devait être cette nouvelle prison, cette institution pénale. Donc, ils sont allés partout. D'ailleurs, ça m'est, quand j'ai cherché, lisais tous les livres donc du 19e siècle, parfois aussi avant d'ailleurs, pour avoir une idée plus générale. Et je me disais, finalement, ils voyageaient beaucoup plus que nous, alors que les moyens étaient réduits, mais ils allaient partout.
En Europe, et aux Amériques.
Voilà, aux Amériques surtout. C'est là-bas justement que Tocqueville et Beaumont sont allés pour 9 mois. Et donc, c'était un voyage, les voyages de l'Amérique pénitentiaire, elle l'appelait, pour aller chercher le meilleur système pénitentiaire et le ramener en France.
Je vous interromps.
Bien sûr.
Sur le terme système pénitentiaire, ça veut dire quoi? Ça recouvre quoi?
C'est un terme qui vient des pénitences, justement.
Religieux.
Absolument. C'est un terme qui est religieux à la base et que, justement, l'idée de la peine devait être un rachat, devait être donc la personne, l'auteur de l'acte, il devait se racheter auprès de la société et donc devait être un pénitent. Hein. Donc, effectivement, si vous voulez, là, l'idée vraiment de la cellule, hein, la cellule vient de la religion en Italie.
Des couvents.
Des couvents, absolument. Donc, en 800, presque 817, me semble-t-il, hein, si mon souvenir est bon. Donc, eux, ils ont cherché, les réformateurs du 19e, de sortir ces modèles du modèle religieux pour l'appliquer à la question de l'institution pénale. Hein, et donc, la peine devait devenir presque une pénitence. Hein, et justement, c'est très beau, les échanges que Tocqueville avait dans les prisons américaines. Il allait vraiment dans les cellules et rencontrer les prisonniers et donc il leur demandait comment ça se passait. Il y avait surtout 2 modèles en Amérique, les modèles de Philadelphie et de Auburn. Philadelphie, c'était l'isolement total, jour et nuit, tout seul, face à eux-mêmes. Et puis Auburn, par contre, c'était la journée en silence, il ne fallait pas parler et travailler, et la nuit, l'isolement. Donc, quand Tocqueville s'entretenait avec ses détenus, il leur disait que justement la seule chose qui les tenait, une des seules choses, d'ailleurs oui, quasiment la seule chose, c'était la religion.
Qui leur permettait de continuer à vivre, d'avoir éventuellement de l'espoir.
C'est ça, okay. qui ne les faisait pas sombrer dans la folie. Il disait vraiment, il y en avait certains qui faisaient état de certains nombres d'hallucinations aussi, parce que ne pas parler... ça veut dire qu'on peut halluciner par la suite. Peut-être on y reviendra, oui. On y reviendra là, peut-être après. Oui. Voilà, donc c'est tous ces systèmes qui vont ramener en France. Et puis il y avait aussi un voyage à Genève, en Suisse. Et Tocqueville les appelait les prisons de Genève et les prisons bonbons. Parce qu'ils étaient toutes roses, ils étaient bien entretenus. Et donc ils ramènent, eux avec les autres hein, bien entendu, ces systèmes pour
établir ce qui serait le meilleur pour la France.
Pour la France, ouais. Absolument.
Christian Lebar.
Alors ce qui est évidemment passionnant quand on vous lit, c'est que le regard qu'on a sur le 19e siècle pénitentiaire, disons, se trouve pour le moins nuancé par rapport aux stéréotypes qu'on a tendance à construire depuis le 20e siècle. Je pense en particulier à la vision que Victor Hugo, par exemple, dans Les Misérables, donne de la prison et du droit pénal en général. Enfin, une société vraiment d'une très très grande cruauté à l'égard des voleurs de pommes. Et là, vous montrez que le 19e est un temps permanent de remise en cause, d'expérimentation, de voyage pour aller voir comment font les autres. Temps zéro, dites-vous. Et alors, ma question serait, parmi les multiples questions qui sont mises en chantier, mais elles le sont à peu près toutes. Il y en a une, évidemment, qui me semble tout à fait passionnante, c'est celle de l'individualisation. Alors, individualisation des peines, d'abord, et puis surtout individualisation de la détention. Vous avez commencé à en parler, mais je pense que, d'un point de vue psychanalyse, c'est évidemment central.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le fait... l'institutionnalisation de la prison qui naît avec sa réforme, hein, finalement, la naissance est équivalente à sa réforme, il y avait plein de lieux d'enfermement ou bien il y avait, par exemple, le fait de bannir les criminels en dehors de la société parce qu'ils ne devaient plus déranger. Alors, les criminels et d'ailleurs, entre guillemets, les fous, hein, parce que c'était la même chose. Ils dérangeaient les systèmes sociaux, donc on les mettait à l'extérieur. Ce qu'il y a eu comme œuvre, c'était de réinclure les exclus à l'intérieur même de la société. Parce qu'ils avaient aussi remarqué qu'au final, le fait de les envoyer ailleurs, ça leur permettait de construire des espèces de civilisations un peu secondaires et de créer encore plus de problèmes. Donc effectivement, il y a eu cette humanisation. Hein, de considérer la singularité du un par un.
Mais pour corriger,
il disait les pelletiers des Saint-Fargeux pour rendre meilleur, punir pour rendre meilleur, Duport aussi d'ailleurs.
Pour ramener dans la société.
Pour se réinsérer dans la société. Donc c'était une individualisation qui était l'autre facette, hein, de la médaille était... pas forcément, tout n'est pas si bien ici, par pas tout des bons, voir le monde en rose, hein, comme les prisons bonbons, mais c'était aussi pour la contamination. Il appelait comme ça le fait que le prisonnier pouvait se contaminer et donc les petits délinquants, ils pouvaient devenir des grands criminels au contact avec de personnes qui étaient appelées à l'époque des dépravés. Et donc il fallait justement les séparer. Et donc cette individualisation, ce n'était pas finalement pour protéger la singularité de chaque être humain, c'était plutôt pour éviter qu'ils se mettent ensemble et créent plus de désordre.
Oui, mais ça ouvre.
Ça ouvre à la question, absolument.
À la question de la subjectivité du criminel, de ce qu'il a en tête, de sa singularité en tant que criminel et donc en tant que dissonant par rapport aux normes sociales.
Absolument, parce qu'il y avait tous les concepts justement d'amendement du coupable, de régénération morale, et donc chercher vraiment que les sujets puissent se réinsérer, mais pour se réinsérer, il fallait qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il avait fait, pourquoi il l'avait fait, et justement de dépasser cet acte. Alors, juste une parenthèse, quant à Victor Hugo, effectivement, mais dans ses livres, ce qu'il décrit le plus, en tous les cas, moi, dans ma petite expérience, Victor Hugo, enfin, j'adore, hein, mais bon, je ne me permettrai jamais d'être une critique littéraire ni historienne par ailleurs, c'était plutôt la peine capitale. Ce qu'il décrivait beaucoup,
c'était... Oui, le dernier jour d'un condamné. Là.
Oui, mais pas que, hein, parce que 1984 aussi, il y a plusieurs endroits où il décrivait comment on condamnait à mort, et donc le fait de mettre, ça avant l'institutionnalisation de la prison, hein, c'est-à-dire que la peine devait advenir là où les crimes avaient été commis. Et donc il ramenait le criminel, par exemple, dans un carrefour, et puis il y avait l'écartèlement. Et donc les gens étaient là en train de regarder comme s'ils regardaient un spectacle pas forcément violent, et d'autres effectivement étaient horrifiés dans lui, qui ne supportaient plus cette modalité de traiter les êtres humains. Et ça, je pense que c'était Victor Hugo, il a participé dans les écrits politiques aussi à que les choses aussi changent, hein, évidemment, oui.
Une des grandes questions qui traverse toute cette période et qui est encore d'actualité, c'est qu'est-ce qui cause le crime et qu'est-ce qui cause et qui fait le criminel. Et au 19e, des juristes, des philosophes, des médecins se sont empaillés. Il y a eu plein d'écoles et j'aimerais bien quand même qu'on revienne là-dessus. Est-ce que, par exemple, le crime, est-ce que c'est héréditaire ? Est-ce que ça vient d'une famille dissolue ou d'une famille recomposée, on dirait, maintenant ? Est-ce que c'est parce qu'on appartient à une classe, je cite les chercheurs de l'époque, vicieuse ou suspecte ou dangereuse. Alors, qu'est-ce qui fait le crime ?
La question, je pense que si j'avais la réponse, j'aurais gagné au moins 3 euros millions, 5 loto. J'aurais le même pourcentage de possibilités de répondre bien à cette question comme celle de gagner 3 fois l'euro million.
Mais qu'est-ce qui. Alors, les pistes qui ont été envisagées.
Oui, tout à fait. Disons que, effectivement, il y a quelque chose à côté de la prison qui était institutionnalisée, c'était l'hôpital psychiatrique, l'asile. Hein, c'était synchronique, les deux lieux, ces deux lieux d'enfermement, de privation de liberté, parce que l'hôpital psychiatrique est un lieu de privation de liberté, ont été institutionnalisés synchroniquement, pratiquement, quasiment en même temps, parce que ce qui dérangeait, c'était les criminels et les fous. Donc toute la question, c'était aussi, est-ce que le criminel est fou ou le fou est criminel ? Qu'est-ce qui peut distinguer l'un de l'autre et comment on peut faire pour comprendre ? Pour ma part, je n'y crois pas. Absolument pas que ce soit de l'ordre de la folie telle qu'on l'appelait à l'époque, aujourd'hui psychose ou autre, ou la criminalité, qu'il y ait quelque chose qui puisse être héréditaire. Je ne crois pas non plus que les classes dangereuses et vicieuses puissent effectivement, voilà, et populaires puissent, c'est là les germes du crime, hein, comme disait effectivement peut-être la Cassagne, hein, les microbes, les criminels, voilà, on va peut-être y revenir. Et donc je ne crois pas du tout à tout ça. Par contre, effectivement. Un être humain, un sujet, il s'est construit dans un certain entourage. Donc, il est libre, il peut faire tous les choix qu'il veut. Donc, ce n'est pas parce qu'il grandit dans un endroit ou un environnement où il n'y a pas d'argent qu'il forcément doit aller voler, pas du tout. Mais bon, c'est sûr que c'est à partir de cet entourage et de ces symboliques qui l'entourent, où lui, il s'est construit et choisit comment conduire sa vie. Donc, qu'est-ce qui cause les crimes ? Tout et rien, finalement.
Et est-ce qu'on peut, à défaut de répondre à cette impossible question, est-ce qu'on peut repérer le criminel ? Parce que il y a eu quand même plein d'études vues d'aujourd'hui étranges, ou burlesques, ce qu'on veut, quasiment des tableaux, des dessins, des rapports très savants, repérage physique du criminel.
Voilà, on va comme c'était pour la phrénologie avec les bosses et aussi l'anthropologie criminelle de Lombroso, donc le modèle un peu de Gaulle et Lombroso. J'ai travaillé plus de 10 ans en prison avec des gens qui étaient passés à l'acte. J'aime pas trop les appeler criminels, mais bon, des gens qui avaient quand même commis des crimes, hein, ça c'est, et des délits aussi. Je ne pense pas du tout qu'il y ait une quelconque façon de pouvoir comprendre, ni de prévenir, par contre.
Mais ça a passionné.
Ça passionne parce qu'il n'y a pas de réponse.
Les scientifiques pendant des décennies.
Absolument. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Là où il n'y a pas de réponse, évidemment, c'est la porte ouverte à toute interprétation et qu'effectivement, on veut donner une réponse qui est certaine et sûre, alors qu'il n'y en a pas. La criminologie naît à partir de ces trous des savoirs, effectivement.
Ça, on y reviendra, oui. Ouais. Christian.
Oui, mais je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire, effectivement, dans la question de ce qui pousse au crime est une des grandes questions du 19e siècle. On pourrait presque dire cousine de la question qu'est-ce qui pousse à la révolte, à l'émeute, etc. Enfin, bon, il y a le célèbre livre d'un historien, Classe laborieuse, classe dangereuse. Donc, il y a une grande inquiétude autour de ces marges, etc. Et dans un contexte d'avènement de la démocratie aussi, donc c'est pas rien. Et il est très, très intéressant, comme vous le suggériez tout à l'heure, que dans cette incertitude très angoissante pour les élites sociales, hein, concrètement pour la bourgeoisie, il y a à la fois des théories complètement fantaisistes qui vont naître, la taille du crâne, le nez de travers, etc., etc., deviennent des indicateurs d'appartenance au monde des criminels, mais il y a aussi, fort heureusement, la genèse des choses beaucoup plus sérieuses sur lesquelles on est encore aujourd'hui, et j'ai envie de dire, en forme de clin d'œil, c'est d'une certaine façon la naissance des sciences sociales, enfin c'est ce que Foucault met en avant très, très justement, c'est-à-dire la psychologie, elle naît probablement pour partie, je parle sous votre contrôle, mais de l'inquiétude que suscitent les déviants, de la même façon que la sociologie naît de la nécessité de surveiller la classe ouvrière à laquelle on est en train de s'apprêter à donner le droit de vote. Quoi. Voilà, c'est bien dans ce contexte-là que naissent les sciences humaines. Pas tant que ça.
Oui, on peut voir, oui, c'est une interprétation possible. Je pense que là-dessus aussi, il y aurait plein d'interprétations qui pourraient être avancées.
C'est pas si évident que ça.
Pour moi,
oui.
Non, parce que je pense que les sciences humaines étaient là déjà, enfin, étaient avant aussi. Alors, peut-être l'institutionnalisation des sciences humaines et la nomination des sciences humaines comme telles, peut-être oui, effectivement. Parce que si on prend ne serait-ce que la psychologie, déjà Aristote, c'était les premiers psychologues, quelque part. Enfin, si on veut vraiment le... bien sûr, c'était pas appelé de cette façon-là, mais bon. Mais bien sûr, on peut penser que ça naisse à ces moments-là. Après, voilà, les risques, c'est toujours de considérer les criminels comme un monstre. Foucault l'avait fait dans justement un cours à Collège de France, c'est les anormaux, hein, avec la question du monstre.
Si je pose ma question, c'est parce qu'aujourd'hui, dans l'espace public, la visibilité principale qui est donnée aux psychanalystes, aux psychiatres, c'est presque l'entrée criminelle. Si vous voulez entendre un psychiatre sur une chaîne de télévision à une heure de grande écoute, il faut attendre un crime, un fait divers, etc.
Donc
il y a toujours ce lien qui est fait dans l'esprit du public.
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est là où il n'y a pas de réponse, justement. Encore une fois, c'est vraiment le fait comment un sujet, comment un être humain, comment un individu, on peut l'appeler comme on veut, peut commettre un tel crime avec une telle violence, une telle férocité, une telle brutalité. Qu'est-ce qui fait que ? Donc, évidemment, dans l'imaginaire un peu de public, soit c'est un monstre, soit quelqu'un doit nous donner des réponses. Et donc, on va demander, vous avez entièrement raison, ou soi-disant, c'est qui sont supposés savoir quelque chose là-dedans. Finalement, on ne peut pas savoir exactement. La réponse, c'est un par un. Et parfois, il n'y en a pas, même pas pour les sujets auteurs du crime. Plein de fois, moi, j'ai vu à l'époque, c'était quand même mes patients. Des patients qui ont accompli, vraiment, ont commis des actes affreux. Mais ils ne savaient absolument pas pourquoi. Ils ne savaient pas. Et ce n'est pas parce que, voilà, c'est une espèce de chercher des crimes de défense et potentiels au tribunal. Pas du tout. C'est parce qu'il y a quelque chose qui les a eux-mêmes choqués de leur acte.
Au 19e, il y a une porte ouverte par Sigmund Freud par rapport à plein d'autres spécialistes, scientifiques, médecins. Quelle a été l'apport de la psychanalyse là, dans ces pratiques, dans ces débats de la justice, de la criminologie, de la compréhension des personnes qui ont commis des crimes et des délits.
Et de la prison aussi.
Et de la prison, bien sûr.
Oui.
L'apport, qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres disciplines ?
Alors, c'est un peu piège comme question pour moi, parce que j'oserais dire presque rien, c'est-à-dire que tous les apports à l'époque, ils s'est fondés sur le déterminisme, c'est-à-dire le déterminisme sociologique, biologique, la psychanalyse, le déterminisme inconscient. Donc, même pour la psychanalyse, il y avait quelque chose qui pouvait se déterminer, mais qu'évidemment, le sujet ne le connaissait pas lui-même et ça lui échappait parce que c'était de l'ordre de l'inconscient. Donc, on avait Melanie Klein qui parlait du surmoi féroce. Il y avait les surmois faibles, les surmois féroces. Sigmund Freud, bien sûr, le premier à parler de criminels par sentiment de culpabilité. Donc, les criminels qui, étant donné qu'il a un sentiment de culpabilité déjà d'une faute inconsciente à commettre, compris, les crimes, en fait, ils viennent, disons, appuyer cette culpabilité qui était déjà là au préalable, qui probablement n'avait rien à voir avec ce qu'il a fait par la suite. Freud n'était pas trop intéressé par ces questions. Hein. Il a écrit vraiment très peu de textes là-dessus, trois dans ma connaissance, et s'il ne m'en a pas échappé d'autres, mais bien sûr, hein, ça veut toujours. Mais après, ses élèves, ils ont un peu continué la question. Disons, les premiers, à mon avis, qui a un peu rompu avec ces traditions déterministes typiques du 19e et aussi du 20e siècle, c'était Jacques Lacan. Lacan, il a quand même rompu le déterminisme. Pour Lacan, tout n'est pas déterminé par l'inconscient. Enfin, s'il y a une détermination, c'est d'un autre ordre. Mais bon.
Oui, mais il dit aussi, vous reprenez bien sûr cette phrase dans votre livre, le prévenu ne peut avouer ce qu'il ne sait pas. Donc,
absolument.
Face dans un tribunal, en plus j'imagine, peut-être on y reviendra aussi, par moments il doit y avoir des querelles entre les juristes et les médecins. À qui appartient le crime ? À qui appartient le criminel ? Comment on se débrouille avec l'inconscient ? Le prévenu ne peut avouer ce qu'il ne sait pas. Et donc, quel est l'apport là des psychanalystes ?
Alors, c'est très juste ce que vous dites de la querelle, parce que c'est la querelle surtout du domaine scientifique, scientifique entre guillemets, du domaine de la criminologie. Est-ce que ça appartient à la médecine ? Il est toujours, c'est toujours en cause. Ça appartient à la criminologie ou ça appartient à la justice ou ça appartient au médecin, la criminologie ? Il y a toujours en France cette querelle. Et donc les DU des criminologies, ils sont tantôt dans les sciences médicales, tantôt dans les universités de médecine et tantôt dans effectivement les universités des sciences politiques ou des lois comme à Paris Assas par exemple. Donc, il n'y a pas des disciplines de criminologie en France à proprement parler.
Malgré la tentative qu'avait fait Nicolas Sarkozy pour instaurer une discipline criminologie.
Tout à fait. Mais alors, ça date. La première grande rupture entre médecins et juristes, la justice, c'était en 1901 avec l'ogresse de la goutte d'or. Et donc, c'est un cas qui a rompu complètement le champ entre médecins, entre la médecine et les juristes. Et les magistrats n'étaient pas contents parce que cette femme, finalement, l'avait fait sortir et l'avait recommencé à tuer des enfants. Et donc, ça a complètement clivé en tous les cas, séparé les deux savoirs. Aujourd'hui, les magistrats sont très à l'écoute. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec parfois ce que j'entends, comme quoi la justice, le magistrat, etc., ils pensent qu'emprisonner ou ils pensent qu'à ceci, à cela, avec des discours très extrêmes. Je ne suis pas forcément d'accord. J'ai l'impression, en tous les cas, dans mon expérience comme expert psychologue, que les magistrats sont très à l'écoute, ils sont très demandeurs et ils ont, entre guillemets, si je peux employer ces mots qui peut être un peu bienveillant, disons, mais entre guillemets, parce que c'est un mot un peu, ça peut être chargé de plusieurs choses, mais ils ont un regard neutre. Ils ne partent pas avec des a priori, ils ne veulent pas forcément incriminer ou incarcérer les gens pour 30 ans. Il n'y a pas un sadisme judiciaire. Par contre, c'est difficile pour eux d'entendre ça. Comment on peut avouer quelque chose qu'on ne sait pas d'avoir commis ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec mes patients.
Donc c'est la question de la responsabilité en fait qui est posée, parce que moi en vous entendant, je l'ai en tête la phrase de Manuel Valls disant il y en a marre de la culture des sciences sociales qui est une culture qui déresponsabilise puisque les gens sont... Mais on pourrait dire la même chose de la psychanalyse. À partir du moment où la psychanalyse mobilise une catégorie qui est l'inconscient, on peut arriver à l'idée que si j'agis sous le coup d'inconscient, je ne suis pas responsable de ce que je fais. Donc de ce point de vue-là, il y a au fond convergence entre sociologues, psychanalystes, toutes disciplines confondues pour dire le sujet n'est pas maître chez lui. Mais sauf que là, Lacan introduit nuance.
Non, c'est-à-dire qu'effectivement, mais il faut faire une distinction entre la responsabilité pénale et ce qui relève du sujet. C'est pas la même chose. La responsabilité pénale, d'ailleurs, ça relève de l'expertise psychiatrique, si en procédure quand même. Donc, les experts psychiatres, ils donnent leur avis. En tous les cas, ils répondent à cette question s'il y a abolition du discernement ou pas, ou altération éventuellement, ou pas du tout. Ce qui ne veut pas dire que les juges doivent forcément aller dans ces sens-là, il peut demander d'autres expertises, etc., jusqu'au moment où l'intime conviction du magistrat, eh ben voilà, il décide si effectivement relève de l'un et de l'autre. Mais la responsabilité dans ces sens-là, c'est le discernement. Est-ce que les sujets, il y avait ou pas les discernements, ou bien il y avait des troubles psychopathologiques, neuropsychologiques, etc., etc. Ça n'a rien à voir peut-être avec la question de l'inconscient. Si un sujet ne se souvient pas de son acte, ça m'est arrivé plein fois avec certains, enfin vraiment, là pour le coup, plus que plein fois, dans quasiment tous les cas d'homicide volontaire, où l'auteur de l'acte décrit son crime, il y a toujours un moment qui reste noir, c'est-à-dire la personne ne se souvient pas du moment de l'acte en tant que tel. Il y a les souvenirs qui vont jusqu'à un certain point, et puis les moments de l'acte, ils tombent vraiment dans l'oubli. Et ça, eux le disent, je sais que je suis responsable, je sais que c'était moi, mais je ne m'en souviens pas. Quand il y a la demande un peu de, même du tribunal, de dire, dites-nous pourquoi, comment vous avez fait cet acte-là, toutes ces temporalités. Eh bien, ça ne s'inscrit pas dans les traces mnésiques, si vous voulez. Donc oui, Lacan, il appelle ça une effraction du réel. Enfin voilà, il y a plein de modalités pour nommer cette trou noir. Mais pour eux, c'est très parlant. Après, on ne l'accepte pas dans la psychanalyse, mais on l'accepte bien dans la physique où il y a un trou noir qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais là. Donc, quelque chose qui ne s'enregistre pas, ne s'inscrit pas.
On fait une pause musicale, Giorgia Tecchini. On écoute The Prisoner, interprété par The Duchess and The Duke.
The tiger that waits on the banks of the river.
The young dream of life that can never deliver. The memory of pain so you'll never forgive her. And never go home again.
It's the fire that you get rubbing two sticks together.
When you first learn the fire won't last forever. The quill of your pen when you're riding. You know you'll never
stand. Well, I hope that you find what you're looking for, but I won't be around to see it. And I hope that you find who you're looking for, but I won't be around to see it. There's a boot heel that's under your chin that says you ain't never gonna win. You were dreaming, but you know the nightmare's still there when you wake up again. Child when they're flashing with wonder and right when you take it away. Well, I hope when you find what you're looking for that you're not too blind to see it. And I hope when they open your prison cell that you're not too afraid to flee. There's a boot heel that's under your chin that says you ain't never gonna win. And you wish you were dreaming, but you know the nightmare's still there when you wake up again.
D'écouter The Prisoner, interprété par The Duchess and the Duke. Vous êtes bien dans Chercheurs en ville sur Canal B, émission mensuelle consacrée à la recherche universitaire. Et aujourd'hui, on reçoit Georgia Ticini. Elle est enseignante-chercheuse en psychopathologie clinique à l'Université Rennes 2, mais aussi experte auprès des tribunaux. Elle intervient en prison et elle a publié Le mythe de la prison, du lieu au discours. C'est le titre de l'ouvrage. Aux presses universitaires de Rennes en 2023 et dont il est question dans cette émission.
Georgia Ticini, tous ces sujets que nous avons rapidement abordés sont réactivés aujourd'hui par la génétique, les neurosciences qui tentent de donner aussi des pistes avec des outils scientifiques ou dits scientifiques. Mais est-ce que la tendance actuelle au XXIe siècle, c'est de dire que l'acte criminel ne dépendrait que d'une cause organique, d'un dysfonctionnement génétique, cérébral ou hormonal qu'on pourrait atténuer à grands coups de médicaments ou de traitements adaptés à chaque personne ?
Oui, la tendance effectivement c'est un peu celle-ci. C'est-à-dire que le crime commence à redevenir comme c'était justement au 19e, avoir une causalité biologique, génétique, organique, etc., qu'on pourrait prévenir avec certitude, qu'on pourrait visionner par les techniques tomographiques actuelles comme l'IRM fonctionnel, entre autres, et surtout, ça deviendrait un outil pour des preuves auprès des tribunaux. Alors là, en France, aujourd'hui, heureusement, on n'en est pas encore vraiment arrivé jusque-là, mais aux États-Unis, les preuves de l'IRM commencent à rentrer dans les tribunaux. Donc on n'est plus du tout confronté à la machine de la vérité, mais on est confronté quand même à la tomographie qui est bien plus compliquée à gérer, à chercher de il n'y a pas de distorsion possible. Et donc, il y a toute une nouvelle discipline qui est la neuro-law. Et donc, c'est cet essai justement de comprendre avec exactitude qui est le criminel, qui est la véracité d'un crime, et donc de le prévenir ou de le soigner.
C'est vraiment effrayant parce que ça veut dire que la racine du mal est dans l'individu, que la société n'a plus aucune responsabilité, il n'y a plus aucun déterminant ni psychanalytique ni social ni voilà, et donc ça veut dire que on en revient aux pires théories du 19e, le plus brutal, je dirais.
Oui, il y a aussi encore les questions de sociologie mais ce n'est pas probablement dans les crimes ce qui effraie plus la population, c'est plus dans la délinquance, dans la délinquance, il y a, on a toujours les théories sociologiques qui portent à penser qu'un sujet puisse commettre des délits parce que ben, elle a besoin d'argent, etc.
Mais l'impression qu'on a, c'est que la sociologie fonctionne pour la délinquance comme fin sociale, comme phénomène social, mais dès qu'on passe au niveau au-dessus,
supérieur,
voilà, et que là, on rentre dans le monde des films américains avec des comportements de psychopathes, hein, pour lâcher une expression hélas très à la mode dans ce type de fiction, le psychopathe, il a besoin de sa discipline à lui, et voilà, il est pourri de l'intérieur, quoi. C'est terrible.
Oui, disons que c'est le dans la délinquance, effectivement, l'acte s'adresse à la société. En effet, s'adresse à la société, un sujet qui n'a pas d'argent pour telle ou telle autre raison familiale aussi, et bah ben, donc ce message de ce il dépasse la loi et ça s'adresse effectivement à l'autre social. En revanche, il n'y a pas forcément d'autre social dans les cas de, par exemple, quelqu'un qui tue une autre personne. C'est d'autres dynamiques qui sont en jeu, et ces dynamiques peuvent avoir des raisons soit avec un autre ou des autres, mais pas forcément une société. Enfin, on ne va pas rentrer dans le terrorisme, hein. Là, je le tiens à distance, parce que c'est effectivement, le terrorisme, c'est encore autre chose. Ou bien une cause de soi-même, et il tue l'autre pour tuer soi-même. Donc c'est une espèce de cacon, ça s'appelait déjà Paul Giraud, dans la psychiatrie classique, elle appelait...
Je pense à la figure du serial killer, par exemple, qui est une figure de fiction. Enfin, je pense que ça existe dans la réalité, mais en tout cas, c'est à l'origine d'un très grand nombre de romans, de films, de séries, etc. Et donc on voit comment là, pour le coup, c'est vraiment un mythe qui finit par charrier avec lui ses propres représentations de ce qu'est la culpabilité.
Et surtout que dans ces types de séries, on a la plupart du temps un mal-être du sujet quand même. Alors, les salaires qu'il est, il est dévasté par quelque chose, et dans cette dévastation, eh ben, il va détruire tout ce qu'il y a autour de lui. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que j'aime pas forcément qu'on parle de psychopathe comme un monstre sans sentiment. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que là, je suis très freudienne. Hein. Je reste très freudienne. Pulsion de vie, pulsion de mort. Le dualisme pulsionnel, au moins, ça aide à penser à un être humain qui a une tendance de deux, un équilibre entre deux, même si cet équilibre peut être plus ou moins d'une part ou de l'autre, mais on doit parier sur tous les êtres humains. Il n'y a pas des êtres humains qui sont de pourriture, on peut rien faire pour eux, qui sont irrécupérables, qui sont des monstres, etc. Par contre, à force de leur dire ça, ils s'identifient eux à ça. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et ça, c'est le problème aussi de la prison. Parce que quand les personnes détenues vivent dans des conditions déshumaines en prison, effectivement, ils sont traités comme s'ils étaient des criminels, etc., etc. Effectivement, on pourrait s'identifier à ça. Parce qu'on est quand même tous des êtres humains. À un moment donné, on se rapporte aussi par rapport à ce que les autres disent de nous. Hein, on n'est pas comme ça, en nous croire sans penser que l'autre ne dise pas quelque chose sur nous, et nous, on va s'accommoder à ça. Donc ça, c'était une question très importante. Donc les psychopathes, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ce type de catégorie. Je vais m'attirer sûrement les foudres de beaucoup de mes collègues, mais je ne suis pas forcément d'accord avec cette nosographie, ni les psychopathes, qui est effectivement au haut d'échelle de la perversion narcissique, ni les pervers narcissiques.
C'est tendance, si j'ose dire. C'est
à la mode,
c'est d'actualité.
Absolument.
Par rapport aux parricides, aux infanticides, aux empoisonneurs, etc., etc. Là, c'est la figure du 21e, le psychopathe et le pervers narcissique.
Tout à fait. Et donc, les pervers narcissiques, on a toute une série de livres qui sortent sur la perversion narcissique, comment faire, comment répondre avec les pervers narcissiques, enfin, des choses assez... Pourquoi pas, hein, si ça peut faire du bien à certaines personnes, mais on risque de catégoriser et donc de mettre des êtres humains sur le signifiant de mauvais, quelqu'un qui n'est pas empathique, sensible, n'a pas de sentiments, etc., etc.
Le mythe de la prison, c'était de punir justement et que les gens soient meilleurs, soient réinsérés le plus harmonieusement possible dans la société. Où en est-on aujourd'hui? Et là, vous connaissez bien cette situation, avec des prisons surpeuplées, avec un manque de surveillants, un manque de médecins, un manque de travail. Beaucoup de détenus réclament de pouvoir travailler, d'être payés très, très peu, mais d'apprendre ou de passer des diplômes universitaires, etc. Il y a un état de la prison qui est quand même assez lamentable actuellement. Et en même temps, on a l'impression que c'est une institution qui est toujours en réforme, perpétuellement en réforme. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça ?
Sa naissance qui se répète. Il naît avec sa réforme et c'est sa naissance qui se répète et se réforme tout le temps. Les problèmes de la surpopulation, ça, il faut être clair là-dessus, c'est un problème des maisons d'arrêt.
Rappelez ce que sont les maisons d'arrêt.
Parce qu'il y a trois types de prisons en France. Il y a les maisons d'arrêt, les centres de détention et les maisons centrales. Les maisons d'arrêt sont les prisons pour un emprisonnement préventif, c'est-à-dire les personnes détenues qui sont en mandat de dépôt, c'est-à-dire dans le temps de l'instruction, les juges, ils ont peur qu'ils puissent s'évader, etc. Donc ils les gardent en prison.
Et qui n'ont pas été jugés.
Ils sont
en attente de leur jugement.
C'est ça. Plus les condamnés à 2 ans maximum. À partir de 2 ans, ils vont en centre de détention jusqu'à 10 ans de peine. Et puis, à partir des 10 ans de peine, c'est les maisons centrales. L'encellulement individuel, qui était justement, qui est né avec l'institutionnalisation des prisons 19e, est dans la loi. Et il est maintenu dans les centres de détention et dans les maisons centrales, mais pas dans les maisons d'arrêt. C'est-à-dire que la France est condamnée tous les ans par l'Union européenne, par la Cour européenne
des droits de l'homme,
parce qu'ils ne respectent pas la loi de l'emprisonnement individuel. Et pour moi, il y a un paradoxe là-dessus, très important à souligner, et que je pense que c'est important à savoir aussi. C'est-à-dire que les présumés innocents purgent une peine qui est pire de la peine d'un coupable. C'est-à-dire que dans les maisons d'arrêt, les surpopulations carcérales, ça veut dire être 3 ou 4, dans des cellules de 9 mètres carrés.
On rappelle les chiffres du 1er juillet, plus de 74 000 détenus et seulement 60 600 places.
Voilà. Et donc, effectivement, il y a en 3-4 mètres carrés entre 2 et 4 personnes, voire peut-être plus, qui sont enfermés 24 heures sur 24, sauf 2 fois 3/4 d'heure dans la journée pour les promenades. Ça, c'est les présumés innocents. Maintenant, si on va chez les coupables, dans les centres de détention, etc., vous avez jusqu'à 12 heures de prison ouverte avec un encellulement individuel qui est respecté. Alors, je ne veux surtout pas faire des politiques ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand nous, moi j'ai travaillé en maison d'arrêt, et donc quand on travaille en maison d'arrêt, on voit l'insupportable de ces personnes qui est tout à fait, j'oserais dire, justifié, parce que vivre à 3-4, alors l'histoire de la prison Clemet, je ne sais pas pourquoi l'opinion publique pense ça, je ne sais pas d'où il voit ça, sous l'histoire de la télévision, ça se paye, la télévision, c'est très rare qu'on donne aux indigents la télévision, donc c'est quelque chose qui coûte, tout coûte un prix en prison. Donc, ces gens qui sont incarcérés et qui vivent à 2, 3, 4, qui ne sont pas encore jugés face à de bruit, etc., violence, etc., etc., comment voulez-vous qu'ils puissent effectivement chercher de comprendre ce qu'ils ont fait, pas fait, on les punit pour les rendre meilleurs, etc. Donc là-dessus, il faut faire vraiment attention à comment on envisage cet aspect, parce que c'est le seul pays, la France, qui a ça.
D'autant que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, au 19e, la volonté et là pour le coup qui est pas si bête, d'arracher en quelque sorte le criminel à un milieu criminogène pour le reprendre en main, le reprendre en charge et le remettre dans le droit chemin, donc cette dimension un peu orthopédique.
Et surtout...
Il disparaît là du coup.
Tout à fait, et surtout que Tocqueville est déjà à l'époque... Il pointait les doigts sous les maisons d'arrêt. Tocqueville, dans son livre, les écrits du système pénitentiaire en France en l'étranger, il disait qu'il y avait un problème dans les maisons d'arrêt. Et à l'époque aussi, les taux de surpopulation carcérale au 19e étaient très importants. À peu près, aujourd'hui, on a battu un peu les records, mais jusqu'à il y a quelques années, on était avec les mêmes taux par rapport à la population. Hein, évidemment, parce que dans le pourcentage de taux de population. Donc c'est quelque chose qui a toujours... Ça fait 200 ans qu'on a les mêmes problèmes en prison.
Vous intervenez en prison depuis 10 ans et dans les tribunaux depuis 3 ans. Je sais que vous préparez un autre livre, plus un livre de clinique où vous parlerez des personnes que vous avez rencontrées dans ces prisons, que vous avez expertisées. Mais... Est-ce que vous avez vu, rien qu'en 10 ans, qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui a changé en 10 ans ?
Beaucoup de choses. Alors, je suis intervenue pour 10 ans en prison comme psychologue clinicienne à temps plein en prison et aussi à l'UHSA, que c'est la psychiatrie pénitentiaire. Aujourd'hui, j'interviens au niveau de la recherche.
D'accord.
Je précise. Qu'est-ce que j'ai vu qui a changé ? Plein de choses. Et aussi, effectivement, là-dessus, il y aurait tous les chapitres de radicalisation à ouvrir, qu'on ne l'ouvrira pas, bien entendu, mais qu'on a vu comment ça s'est produit, comment ces phénomènes-là ont commencé à se produire. Qu'est-ce qui a changé ? C'est l'âge. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était l'âge de la population pénale qui était de plus en plus jeune. Je ne reviendrai pas trop dans les origines parce que sinon, ça semble vraiment que je fasse de la politique. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de populations en prison qui est d'origine étrangère. Et donc, avec des difficultés évidemment pour communiquer. Il y a des interprètes, c'est très bien qu'on arrive à les trouver. Qu'est-ce qui pourrait avoir changé d'autre ? La violence, ça a augmenté. Mais après, la violence aussi, ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est plus ou moins violent comme lieu, comme endroit. Mais encore une fois, c'est la maison d'arrêt où j'ai travaillé. Donc, les autres aspects des autres prisons, peut-être qu'il n'y a pas autant de changements. Mes collègues qui travaillent en prison disent que oui, mais pas autant que dans les maisons d'arrêt où il y a un insupportable.
Georgia Ticheni, on vous remercie infiniment. Je rappelle le titre de votre essai, Le mythe de la prison, du lieu au discours. C'est publié au Pur. Il coûte 26 euros. Merci Georgia Ticheni. Merci Christian Lebar. Merci Catherine Riera, notre réalisatrice.
Merci beaucoup à vous de cette invitation. Merci.
Et à bientôt pour une prochaine émission de Chercheurs en ville sur Canal B. If I live or if I die, then I am a happy fly. If I die.